De la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle.
Et direction Doha au Qatar pour ouvrir ce journal. Bonjour Clotilde Dumais.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La France qui croit effectivement toujours en sa bonne troisième étoile. Les Bleus sont en quart de finale. Ils affronteront l'Angleterre samedi à 20h. On va en parler dans quelques instants avec Jacques Vendroux, envoyé spécial d'Europe 1 en Qatar. Mais d'abord, le soulagement hier après le doublé de Kylian Mbappé, le 52e but d'Olivier Giroud, désormais seul meilleur buteur de l'histoire des Bleus. De quoi faire littéralement hurler de joie les supporters tricolores.
J'ai perdu ma voix. Équipe de France incroyable, on est en quart. Kylian Mbappé va un peu déçu au début du match, mais bon, il s'est vite rattrapé. Giroud incroyable aussi. Retourne acrobatique, pas accepté je dirais, mais voilà. Il a fait le geste.
Ça fait un peu peur après le dernier match qu'il y a eu. Et là, très bon match. Trio d'attaque de feu ce soir. Et ouais, le pénalty à la fin, mais bon, c'est pas grave. On est en quart de finale et confiant pour la suite.
Desire, la chanson de gala, ça veut dire libérer du désir. J'espère qu'ils vont le garder, ce désir, jusqu'à la finale de cette Coupe du Monde absolument incroyable. On est en ligne avec, on vous le promettait, Jacques Vendroux. Bonjour Jacques.
Bonjour à tous.
Alors, le prochain adversaire des Bleus en quart de finale, ce sont les Britanniques. Alors ça, c'est quand même autrement plus balèze que la Pologne.
Et il faut se méfier de ces Anglais. C'est l'une des équipes, en tous les cas, qui a fait la plus grosse impression depuis le début de ce mondial. Hier, 3-0 face au Sénégal. C'était clair, net, précis. Dans un match qui aurait pu être beaucoup plus compliqué. Et puis, à l'occasion du premier tour, invaincu, 2 victoires et un match nul. Mais il y a aussi des joueurs exceptionnels dans cette équipe anglaise. Enfin, un grand gardien, Pickford, le gardien d'Everton. Il fait très peu de fautes. Ils jouent tous en première ligue anglaise, bien sûr. Et ils méritent, en tous les cas, d'être sélectionnés avec l'équipe d'Angleterre. Parmi les joueurs, il y a Patty Maguire, l'un des meilleurs défenseurs. Il joue à Manchester United. Il y a Benjamin White d'Arsenal. Et évidemment, il y a Gallagher qui joue régulièrement avec l'équipe de Chelsea. Et surtout, attention, Harry Kane, le capitaine de Tottenham, qui va retrouver Hugo Lloris, ils sont dans le même club. Kane est l'un des plus grands attaquants du monde. 80 sélections et déjà 52 buts. Donc vous le voyez, ce sera un match hyper compliqué pour les Bleus, mais quelque part, on peut gagner.
Le décor est planté. Merci beaucoup Jacques Vendroux, envoyé spécial d'Europe 1 à Doha. Ce sera ce quart de finale évidemment à suivre sur Europe 1, radio officielle de la Coupe du Monde. En attendant la suite des huitièmes, aujourd'hui ce sera Japon-Croatie, 16h, pas mal, et Brésil-Corée du Sud à 20h. Dans le reste de l'actualité, les 8h04, des tentes plantées en plein cœur de Paris. Plus de 300 migrants campent devant le Conseil d'État depuis vendredi.
Ils se prétendent mineurs et veulent être reconnus comme tels par l'administration. Tous réclament également l'accès à un hébergement d'urgence. Mais dans le quartier, leur présence passe mal. Le reportage d'Alexandra Gigi.
Des centaines de tentes et de couvertures de survie face au Conseil d'État à quelques pas du Louvre. Une situation inhabituelle et crispante dans ce quartier en plein cœur de la capitale. Habitants et migrants se retrouvent dans une situation impossible. Arrivé en France il y a 3 mois, ce jeune Guinéen est à bout de force.
C'est très très dur. Nous sommes complètement déprimés parce que là, ça ne va pas. Comme vous voyez là, on dort dehors, il fait très froid. Du coup, on a besoin de logements. Vraiment, il n'y a pas tout ce qu'il faut, quoi. Depuis que je suis arrivé en France, je dors dehors. Ça va pas du tout. On a besoin d'aide. Et on veut aller aussi à l'école. On a toujours l'espoir.
Tous espèrent que la situation se débloque rapidement. Les riverains aussi en ont marre. Malo habite le quartier. Il est exaspéré.
C'est très compliqué de vivre à côté de camps de migrants. C'est un bazar, c'est du trouble à l'ordre public. C'est un vrai problème et il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Et je trouve ça purement scandaleux. Et les associations qui les aident sont aussi scandaleuses.
Ces associations l'assurent. Sans solution proposée rapidement par le gouvernement, ces tentes continueront coûte que coûte à occuper la place du Palais Royal.
Alexandra Gégy pour Europe 1. En bref, le trafic revient progressivement à la normale dans les gares après la grève des contrôleurs ce week-end. 3 TGV sur 4 doivent circuler aujourd'hui. Les députés examinent le projet de loi pour accélérer l'installation d'éoliennes et de panneaux solaires en France. Objectif d'ici 2050, multiplier par 10 la capacité de production d'énergie solaire et déployer 50 parcs éoliens en mer. Le gouvernement multiplie les mises en garde face à la nouvelle vague de Covid. Après Elisabeth Borne, c'est au tour du ministre ministre de la Santé de lancer un appel solennel aux Français pour la vaccination contre le Covid-19. François Braun qui assure que son bras ne tremblera pas s'il faut décider d'une obligation du port du masque. Alors masque, made in France ou pas, hein, c'est la question. 2 ans après l'arrivée de l'épidémie, la France a-t-elle rattrapé son retard en matière de souveraineté médicale? On se rappelle évidemment de la pénurie de masques, mais aussi de médicaments et de matériel médical. 2 ans plus tard, les projets existent, Margot Faudéré, mais on est encore loin du compte.
Oui, depuis plusieurs années déjà, l'entreprise Aptar Pharma produit des protège-aiguilles dans l'Hexagone et elle a renforcé ses usines au moment du Covid. En revanche, en matière de médicaments, c'est plus compliqué. Des projets ont été lancés. Une usine de paracétamol en Isère par un fournisseur de Sanofi. Une usine de médicaments dérivés du sang à Arras. Mais ils sont loin d'être opérationnels, explique l'économiste Philippe Crevel.
C'est quelque chose qui s'étale sur 4-5 ans. Pour l'usine de paracétamol, on parle d'une ouverture aux alentours de 2024, si tout se passe bien. On voit bien qu'on est sur du temps long.
Pour les masques chirurgicaux, la capacité de production française atteint 260 millions de modèles par mois. Mais l'Hexagone importe toujours des masques chinois, note Christian Curel, président du syndicat des fabricants de masques français.
Si on regarde les appels d'offres publics entre l'été 2020 et l'été 2021, on a 97% de ces appels d'offres qui ont été affectés à des masques chinois.
En tout cas, aujourd'hui, 18 entreprises en France fabriquent des masques, soit beaucoup plus qu'avant la pandémie.
Les précisions de Margot Faudéré.
En Iran, les manifestations se poursuivent malgré la dissolution de la police des mœurs annoncée par les autorités iraniennes ce week-end.
C'est elle qui était à l'origine de l'arrestation de Mahsa Amini, dont la mort en détention a déclenché une vague de contestations qui dure depuis bientôt 3 mois. Alors concrètement, quel était le rôle de cette police des mœurs en Iran? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Victor Pourchet.
En Iran, depuis 2005, la police des mœurs veille à ce que les lois de la République islamique, en vigueur depuis la révolution de 1979, soient respectées dans la rue. Elle est formée d'hommes en uniforme vert et de femmes portant le tchador noir qui couvre la tête et le haut du corps. Concrètement, cette police surveille les tenues des femmes, qu'elles soient iraniennes ou non. Elles doivent avoir les cheveux couverts, ne peuvent pas porter de manteau court ou de pantalon serré et les couleurs vives sont formellement interdites. En cas d'arrestation, la peine peut aller de l'emprisonnement à la flagellation, mais problème, il n'existe pas de définition précise de ce qu'est une bonne tenue, notamment sur la façon de porter le voile. Les critères d'action de ces policiers sont donc arbitraires. Les ONG condamnent depuis toujours cette unité de répression.
Le tuto de la rédaction, la notice de l'info, tous les matins dans votre journal de 8h, signé ce matin Victor Pourchet. 8h09, 5 ans, jour pour jour, après la mort de Johnny Hallyday. Ses fans ont toujours le blues.
Et pour l'anniversaire de la mort du rocker, certains d'entre eux ont même prévu de faire le déplacement jusqu'à l'île de Saint-Barthélemy où Johnny est enterré. C'est le cas de Christophe, un fan de la première heure que Chloé Lagadou a rencontré juste avant son départ.
Dans le bureau de Christophe, Johnny Hallyday est partout, en photo, sur les murs, en figurines, sur les étagères. Et c'est en écoutant la musique de son idole que le fan termine sa valise pour Saint-Barthélemy.
On a tout préparé pour la veillée. On a mis nos vêtements blancs, oui. Nos t-shirts de Johnny.
C'est la 5e fois que Christophe et sa femme font le voyage. Et pour réussir à partir, ils se serrent la ceinture.
Saint-Barthélemy, c'était l'île des riches. Hein. Mais bon, si on économise un peu et puis on se prive sur autre chose. Du coup, on part plus en vacances l'été.
Les yeux humides, Christophe, avec sa veste Harley Davidson et son pendentif en forme de croix autour du cou, se projette déjà à Saint-Barthélemy.
Laetitia Hallyday donc fait une veillée le 5 décembre, que des chansons de Johnny qui passent en boucle. On est en communion pendant 3 heures, je ne cache pas qu'il y a des larmes de temps en temps. Il y a toujours la même douleur, la même envie d'aller le revoir, c'est très émouvant. Quoi.
Christophe restera un peu moins de 2 semaines sur place et il compte se recueillir plusieurs fois par jour sur la tombe de Johnny.
Passion, ça se mesure parfois à la hauteur des sacrifices. Très beau reportage, merci Chloé Lagadou. Et sachez que Laetitia Hallyday, je vous le rappelle, sera à 9h l'invitée de Culture Média sur Europe 1 au micro de Philippe Vandel. Merci Clotilde Dumay pour votre journal.